Jésus a fait de la philosophie, puisqu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il veut nous transformer en lui par amour. Il n'a pas fait de philosophie, il a parlé en philosophe à Pilate. Comme quand nous sommes en face d'un philosophe, on lui parle en philosophe, tout en étant chrétien. Parce qu'on sait qu'il comprendra que ce langage-là. Ça ne sert à rien de parler en chrétien à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Il ne comprend pas. Alors on essaie d'atteindre. C'est ça que demande Vatican II, l'ouverture au monde. Un savant, vous ne parlerez pas nécessairement sa science. C'est même souvent très désastreux. Quand vous avez affaire à un grand savant, vous ne pouvez pas être à son niveau. Mais vous lui montrerez la différence entre la science et les réalisations humaines. Qu'est-ce que c'est qu'être homme ? C'est donc le problème de l'amour. On revient toujours à ça. Quelle est la vérité des intuitions ? Faut-il ne pas en tenir compte ? Ah, oui, oui. Il n'y a pas de vérité dans l'intuition. L'intuition peut être vraie ou peut être fausse, mais j'ai une intuition. Puis je vérifierai si elle est vraie. Mais j'ai une intuition. Poincaré, Henri Poincaré, le matheux, a un très beau passage dans les méthodes scientifiques, méthodes des sciences mathématiques sur l'intuition. Les mathématiciens sont des hommes intuitifs. Les grands mathématiciens sont des hommes intuitifs. Comme les artistes. Les artistes sont des intuitifs. Ça, c'est sûr. Et puis, les amoureux, au sens amour spirituel, pas passionnel, parce que quand l'amour est uniquement passionnel, il n'y a aucune intuition. On est aveugle. On voit tous l'image du cheval qu'on aime. Mais est-ce que le soupçon est nécessaire dans l'interrogation? Non, il n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire. Ne cultivez pas les soupçons. Je vous en supplie. Je me souviens, c'était un étudiant à Fribourg qui un jour est arrivé complètement angoissé. C'était pourtant un Valaisan qui avait les deux pieds sur terre. Il est arrivé complètement angoissé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, Heidegger dit qu'il faut être angoissé pour entrer en philosophie. Alors, j'ai essayé d'être angoissé. Et maintenant, ça commence à prendre. Alors, je dis, mon cher ami, surtout, ne continuez pas. Vous allez perdre tout ce que vous avez. Quand vous êtes angoissé, vous n'avez plus aucune... Vous avez une espèce d'inhibition complète. Vous n'avez plus rien d'intellectuel. Il ne faut pas être angoissé. C'est vrai qu'Heidegger dit que l'angoisse, mais... C'est de l'Heidegger. Ah non. Vous voyez, ce qui est très curieux, c'est que les philosophes parlent de l'angoisse et ne le sont pas. Sartre a fait que ses premiers disciples se sont suicidés parce qu'il a parlé d'angoisse. Mais Sartre, dans la fin de sa vie, était angoissé, mais pour une autre raison. Je connaissais des amis très intimes de Sartre et qui m'avaient dit que Sartre était vraiment très, très, très mal. Alors je lui ai dit, est-ce que vous croyez que je peux, hein, aller avec vous auprès de lui? Alors ils m'ont dit, si on dit qu'il y a un curé qui vient le voir, il va être affolé. Il va perdre pied. Il a une frousse des curés. Alors j'ai pas été par amour pour lui. Vous voyez donc, à la fin de sa vie, il était angoissé. Angoissé devant certaines réalités qu'il liait. Le curé représentait un ordre de choses qu'il niait. Il le savait bien, il était suffisamment intelligent pour ça. Venez, ne cherchons pas le soupçon, ne cherchons pas l'angoisse, c'est négatif. Mais on connaît la philosophie du soupçon. On connaît la philosophie. connais la philosophie de l'athéisme, mais je ne suis pas athée à cause de ça. La connaissance permet de connaître les choses sans les être par connaturalité. Je ne suis pas en connaturalité avec tout ce que je connais, heureusement. On connaît le mal et on essaie de pas être en connaturalité avec le mal. On connaît ce que c'est qu'être humain, le mal, ce que c'est qu'être méchant. Mais je ne cherche pas à être connaturalité avec le méchant, d'avoir des griffes. Faut être comme un petit chat. Alors je continue. Donc, toute intuition peut être vraie. Il faut la vérifier. Toujours voir si ce que j'ai saisi dans une intuition est vrai. Et à ce moment-là, je quitte l'intuition et je reviens sur l'expérience. Et j'essaie de saisir par des inductions si l'intuition était comme une induction antérieure, anticipée. Je crois que les vraies intuitions sont des inductions anticipées. J'anticipe la chose. Mais il y a une part imaginative, mais une part intellectuelle. L'intuition est de l'ordre de l'intelligence. Mais grâce à l'imagination, on anticipe. L'imagination anticipe. Les gens très intuitifs. Vous voyez, très intuitifs sont pleins d'imagination. Et l'imagination aide énormément à l'intuition. Mais il y a des gens qui n'ont jamais d'intuition. Ça arrive. C'est très très gênant. Parce que l'intuition aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup pour voir les sentiers qu'on peut prendre. On m'a dit que certains avaient de la peine à comprendre ce que j'appelais exactement par amour d'amitié. C'est vrai, je suis d'accord, parce que d'habitude on dit amitié, et moi je dis amour d'amitié. Je traduis par là la philia grecque. La philia grecque, c'est l'amitié. Mais en France, dans le français actuel, il y a quelques années, il y a eu un livre qui est paru, Amour, Amitié. Amitié, c'était la camaraderie. Et l'amour, c'était l'amour. En grec, il y a le mot philia, amour d'amitié. Il y a le mot eros, amour passionnel. Il y a Aphrodite, l'amour dilettante. On s'amuse. L'amour gracieux, vous voyez, tout ce que ça représente. Il y a trois mots différents. En France, il n'y a qu'un mot. Alors, vous allez me dire que les Français n'aiment pas. Ou bien les Français aiment de confondre tout. Quand il s'agit d'amour, pas les mathématiques, mais quand il s'agit d'amour, c'est vrai. Vous êtes obligé d'ajouter, vous voyez, quand il s'agit de l'amour, vous allez comprendre, quand il s'agit d'amour, vous avez un amour instinctif. L'instinct. Vous avez faim. C'est un amour. Vous aimez le bon vin, instinctivement. Quand vous voyez une bouteille, vous jetez dessus. Vous l'aimez, voulez-vous. Et vous dites, c'est plus fort que moi. Dès que je vois, je me précipite. Et chacun a ses amours différents. Les autres, c'est le chocolat. Alors au début du carême, je ne prendrai pas le chocolat. Et le petit démon qui est là pour vous agacer, chaque fois que vous ouvrez une armoire, plein de chocolat. Et quand vous voyez plein de chocolat, impossible. Plus fort que vous. Et vous dites, c'est plus fort que vous. J'ai besoin de ça. Oui. Bon, vous avez l'amour instinctif à l'écart de la nourriture, l'amour instinctif dont on parle toujours aujourd'hui, le point de vue instinct sexuel. C'est un instinct. Alors, c'est-à-dire un appétit naturel qui me porte au-delà de ma volonté. Vous avez ensuite un amour passion ou un amour passionnel. La passion. Et la passion, il y a une passion première. La passion fondamentale, c'est la passion amour. J'aime passionnément le bien sensible. C'est bien sensible. Puis, vous avez un amour imaginatif. Puis, il y a des gens qui aiment le clair de lune. Puis, ils aiment se promener. Je me souviens, quand j'étais en Grèce, la première fois, j'ai rencontré des pythagoriens. Des matheux pythagoriens. C'était tout à fait des pythagoriens. Mais mon père, est-ce qu'on pourrait faire une promenade pour que je vous montre ce que c'est qu'Athènes? Alors il faut y aller à telle heure, pour le coucher de soleil, pour bien voir telle, pour la grande. C'était merveilleux, tout était vu sur un point de vue, pour avoir la vision la plus. Puis alors, à la fin, quand il m'a quitté, il m'a dit, ça fait plaisir de rencontrer une âme. Je lui ai dit, merci. Oui, une âme séparée. C'était... Parce qu'on avait dialogué cordialement, merveilleusement. C'était un pythagoricien. Il raisonnait en matheux pythagoricien. Vous voyez, le matheux pythagoricien, c'est celui qui, à travers ses mathématiques, voit le monde entier. Alors, aime les âmes séparées. Je savais rester ce point de vue-là, parce que c'est la seule fois que c'est lui comme ça. Alors, il y a un amour imaginatif. Il y avait un ami. J'ai toujours entendu ça dans ma jeunesse. Un ami de mon grand-père qui était soif pontificale et disait tout le temps qu'il allait se marier avec Miss Idéal. Et un beau jour, il s'est marié. Alors tous ses amis ont été voir Miss Idéal. Et je l'ai connue, Miss Idéal. Mais pour moi, elle était déjà assez âgée. Alors l'idéal était un peu fané. Mais c'est... alors, vous aimez, vous voyez, l'idéal. C'est vrai, il y a des gens qui ne vivent que d'idéal. Moi, j'aime pas dire que la vie chrétienne est un idéal. C'est pas un idéal. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui vivent d'un idéal. Oui, c'est un amour assez romantique. Assez romantique. Puis vous avez le point de vue spirituel. Il porte sur la personne. C'est la personne que vous aimez. Eh bien, l'amour d'amitié, c'est deux amours spirituels qui se rencontrent. Je l'aime, il m'aime. Et avant de savoir s'il m'aime, il y a l'inquiétude. Est-ce que vraiment il m'aime? Vous savez, on va essayer de savoir s'il m'aime. Et l'amour d'amitié, c'est toujours l'amour d'amitié au sens très fort. C'est l'amour spirituel, mais comme l'amour regarde toute la personne, je ne peux pas abstraire. L'amour n'est jamais abstrait. C'est toujours concret. Et donc, l'amour spirituel qui porte sur la personne implique un aspect imaginatif, implique un aspect passionnel, implique un aspect instinctif. L'aspect instinctif n'est pas toujours en acte. C'est vrai. Mais il y a un amour passionnel. Et l'amour passionnel n'est pas toujours. Je connais des gens très sérieux. Je crois qu'il faut des gens très sérieux. Qui s'aiment vraiment spirituellement. Mais sans aucune passion. Deux icebergs passionnés qui se rencontrent. Deux non passionnés qui se rencontrent. Et ils s'aiment. Ils ont une admiration l'un pour l'autre. J'ai jamais vu une intelligence aussi remarquable. Puis l'autre dit, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intelligent. Alors c'est des intelligences qui s'aiment, qui se rencontrent. Ils s'estiment. Ils ont un sens de la dignité de la personne. Mais il n'y a pas de passion. Sans passion. Et ça, quelqu'un m'a posé la question, on s'aime comme ça, peut-on se marier? Ah, oh, c'est difficile, il n'y a pas de passion. passion, c'est sensible. Vous voyez ce que je veux dire? On se retrouve à un niveau sensible et on se comprend dans la sensibilité. On s'aime dans la sensibilité. Il y a un peu de chaleur, quoi. Et d'autre côté, c'est un amour très, on dira, un amour platonique. C'est pas du tout vrai, parce que c'est pas du tout Platon. Mais c'est un amour platonique. On s'aime spirituellement, purement spirituellement. Je t'aime purement spirituellement. Je crois pas que c'est un amour parfait, c'est un amour très particulier celui-là. Puis alors il y a l'amour surnaturel. La charité. La charité fraternelle. Normalement, je dis normalement, l'amour relève de tout sujet. De sorte que l'amour spirituel s'enracine dans un amour imaginatif. C'est nécessaire. Dans l'amour passionnel et dans l'amour instinctif, c'est tout l'individu, c'est toute la personne qui est. Je ne peux pas abstraire. Mais, alors c'est là où tout de suite, il faut bien comprendre, il y a une note dominante. Quand on s'aime passionnément, ça se rend compte, le coup de foudre. Le coup de foudre. Vous voyez, Jacob qui rencontre Rachel. C'est le seul coup de foudre qui est raconté dans l'écriture. Elle lève son voile. Oh, voilà. Immédiatement. Et court devant. Donc c'est un amour passionnel. Dans un amour passionnel, la passion domine. Il y a un amour spirituel. Mais la passion domine. Dans l'amour d'amitié, quand il est vraiment réciproque. Alors, à ce moment-là, c'est l'aspect spirituel qui domine. Mais la passion reste. Et la passion, c'est toujours un peu volcanique. Les passions de 15 ans, de 18 ans, de 25 ans, de 40 ans, de 60 ans, sont pas les mêmes. Allez, jusqu'à 70 ans. Et même plus. Les passions sont différentes selon les âges. C'est extrêmement curieux, ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est volcanique. Il y a en nous un... Alors, il y a des gens qui... Les passions sont éteintes à partir de tel âge. Je crois que c'est ça, ça arrive, ça, ça arrive. Mais normalement, les passions ont des modalités différentes selon les paliers. Ça, c'est sûr. Mais la passion n'est jamais éteinte. Parce que c'est notre vie sensible. Mais elle est plus facilement endiguée. Ça, c'est sûr. C'est plus difficile d'endiguer la passion à 16 ans qu'à 70 ans. Parce qu'à 45 ans, c'est quelquefois très dangereux. Oh là là. Il y a des gens qui sont passionnés qu'à 45 ans. Ils n'ont jamais connu ce que c'est. Je me souviens de quelqu'un de très sérieux. Très sérieux. Il n'avait jamais compris ce que c'était que la passion. Et puis voilà qu'à 45 ans, tout d'un coup, ils tombent passionnés, amoureux passionnément de quelqu'un. Alors c'était extraordinaire. Parce que c'était tellement fort que tout le monde le voyait. C'est visible à l'œil nu. Et lui ne le voyait même pas. Non, ça fut très drôle. Ses amis avaient voulu dire, mais écoutez, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes en état d'ivresse toute la journée. Oui, c'est pour ça que le mot amour est très équivoque, ou très analogique, si vous voulez. Quand je parle d'amour d'amitié, je parle de l'amour spirituel qui implique un choix. La passion, on ne la choisit pas. L'instinct, on ne choisit pas. Ça vous tombe sur la tête. Pourquoi on aime instinctivement et passionnément quelqu'un et pas quelqu'un d'autre? Alors les philosophes ont inventé au cours de l'histoire des atomes crochus. Comment ça signifie rien du tout? Mais il y a des codes naturalité. Très curieuse. Alors, l'amour d'amitié, un véritable amour d'amitié, implique un amour spirituel. Premier. un amour qui s'impose à nous. Je l'ai regardé, on s'est regardé, on s'est aimé. Et vous avez regardé beaucoup de personnes dans votre vie. Et vous n'avez pas dit, j'ai aimé toutes les personnes que j'ai regardées. Non, pas du tout. C'est des personnes que vous regardez. Elles n'ont pas des yeux grecs. Alors je suis passé indifférent. Heureusement pour moi, du reste. Autrement, oui, ça. J'aurais un filet derrière, 190 gros poissons, à traîner. Avec. Non. Mais pourquoi on rencontre certaines personnes, il y a quelque chose. C'est mystérieux, ça. C'est très, très mystérieux. Mais c'est très beau et c'est très grand. Pour Platon, le regard, c'était le feu. Et c'est vrai. C'est par le regard qu'on dit le plus. Sans qu'on s'aime. C'est ce vieux Permet, je me souviens. J'étais Permet d'un tout petit moment dans ma vie. Et alors, ce vieux, un vieux Permet, j'étais tout jeune, j'étais plein pour recevoir des conseils, il était venu. Il m'a dit, faites attention, regardez bien. Et vous verrez tout de suite, dans les regards, s'il y a du feu. Si ça brûle. Et c'est très vrai. Socrate disait qu'il avait reçu des dieux un don pour reconnaître les amoureux. Donc pour reconnaître ce premier amour dont on n'est pas maître. Ce premier amour dont on n'est pas maître. Mais on est libre de l'accepter ou de le refuser. Oui, alors c'est ça qui est intéressant. C'est qu'avec l'amour d'amitié, vous pouvez voir, en l'analysant, tous les niveaux de l'amour. Il y a un premier amour qui s'impose à moi. Je l'accepte ou je ne l'accepte pas. Premier moment de la liberté, c'est à l'égard de ce premier amour. Parce qu'on est toujours libre de faire que cette personne qui m'attire, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'attire, d'accepter cette attirance ou de la refuser. Je peux très bien dire non, non, non. Mais quand il s'agit par exemple de gens mariés avec d'autres personnes mariées, ça existe. Alors, au 10 ans de mariage, il peut y avoir des petites tentations. De la vie religieuse, c'est la même chose. Les engagements, on s'engage, oui. Mais notre cœur continue le terrain volcanique. Et il est différent. Il est différent. Alors, il y a un premier amour instinctif, quasi instinctif, naturel, disons, et spirituel, et qui peut être très spirituel. Il ne faut pas croire du tout qu'il n'y a que l'amour passionnel qui est naturel, pas du tout. Il y a un amour spirituel qui est très naturel. Vous voyez, on dit, on rencontre l'âme sœur, on ne l'a jamais rencontré tout d'un coup, je ne croyais pas que ça existait. Puis on rencontre quelqu'un, oh, c'est extraordinaire, c'est un vrai sens. J'aurais jamais pensé qu'on pouvait aimer comme ça. Parce que chacun qui aime croit qu'il aime plus que tous les autres. C'est toujours comme ça. Il aime plus que tous les autres. On n'a jamais aimé comme j'aime. J'ai entendu ça 50 fois. Et c'est très beau du reste parce qu'on touche un absolu quand on aime. Alors comme on touche un absolu, ben oui, on considère que c'est le seul. Parce qu'on voit les autres de l'extérieur. Tandis que celui-là, on le vit de l'intérieur. Et quand on vit intérieur, un amour, ça peut nous prendre entièrement. On peut en être malade. Mon âme languit. Je suis blessé d'amour. Mais dans le cantique des cantiques, on voit très bien toutes ces expressions qui sont toujours vraies pour tout amour. Alors, on l'accepte, on l'accepte pas. C'est intéressant de voir qu'à partir de cet amour va naître le premier acte de liberté. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de liberté. Il n'y a que la liberté de l'artiste. Oh, ça aussi, c'est très important. Il y a une liberté chez l'artiste. Il y a une liberté chez l'homme qui aime. Et c'est l'amour qui est source de la liberté. Je peux accepter ou refuser cet amour. Alors que s'il n'y avait pas d'amour, je ne pourrais pas faire ce choix. Je ne pourrais pas accepter ou pas accepter. Si j'accepte, cet amour s'empare de ma vie et devient une intention de vie. Celui que j'aime me finalise. Et je découvre à l'intérieur de cet amour ce qu'est la finalité. Il faut aimer pour découvrir la fin, pour découvrir notre fin. Et si cette intention de vie, je la maintiens, je vais essayer de trouver la manière de pouvoir faire que cette intention de vie se réalise pleinement dans ma vie. Alors, à l'égard de l'ami, c'est à ce moment-là que va se poser la question du choix. On dira à un ami, je te choisis pour être mon ami. Oui, l'intention se précise. On va regarder ça en quelques minutes. Et c'est à partir de là que toute l'éthique, la philosophie éthique va se préciser. Donc je dirais, il y a un premier amour naturel. Il s'impose à moi. Il porte sur un bien personnel, une personne. À l'égard d'une personne humaine. Il y a des gens qui sont passionnés à l'égard des chevaux. Oui, ça peut arriver, ça. Un anglo-saxon passionné pour les chevaux. Il y a des gens qui sont passionnés pour, je ne sais pas moi, pour d'autres animaux, ça. Pour les boas. Une personne à Paris qui vivait avec un boa dans sa chambre. Des passionnés. Vous ne pouvez pas vivre en dehors du bois. C'était son milieu. Ça, vous savez, les passions, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui sont... J'ai rencontré... authentique. Un petit village. Un petit château merveilleux. Ancien. Ça me j'ai regardé attentivement. J'ai vu quelqu'un qui est venu. J'ai rencontré deux personnes qui s'étaient mariées par amour. Des clés. Tous les deux étaient chercheurs de clés. Et ils s'étaient mariés pour mettre que tout ce qu'ils avaient découvert soit mis ensemble. Et ils avaient authentique. Et ils avaient acheté une maison pour en faire un musée à clés. Ils vivaient au milieu de ces clés. C'était leur passion. Leur passion. Ils étaient très purs en même temps. Et au milieu de tout ça, il y avait une statue de la Vierge Marie très belle. Et un petit bouquet. Il m'avait pas un petit bouquet de fleurs. C'est la reine des clés. Bon, un bien personnel. Ce bien personnel devient une intention. Une intention de vie. Le bien devient la fin. Ça, c'est la réflexion. Là, il y a une liberté. Cet amour naturel s'impose. Et cet amour naturel est accepté. Il devient l'intention de ma vie. Et cette intention qui porte toujours sur une personne, cette personne, je la choisis, le choix. Alors à ce moment-là, c'est l'ami. Le choix de l'ami implique que l'ami aussi vous choisisse. Il y a quelque chose de très curieux. Puis ensuite, mais... dans le choix de l'ami, on le dit, il faut le dire. Donc, il y a, on dit à l'autre qu'on l'aime. Et là, il y a un moment très curieux. Il y a une espèce de l'exécution. On dit à l'autre qu'on l'aime. Parce qu'on peut très bien le choisir comme ami. Ah, ce que j'aimerais que cette personne puisse m'aimer. Comme je l'aime. Je la choisis, il faut le dire, pour savoir si l'autre m'aime. Et il y a un moment angoissant, silo de même pas. Catastrophe. Toute ma vie sera ratée. Parce que j'aurais aimé quelqu'un. Je suis complètement indifférent à cette personne. Oui, il y a quelque chose de très curieux, là. On passe à l'exécution. Parce que jusque-là, tout ça est intérieur. Je porte ça dans mon intériorité. Personne ne le voit. Tandis que là, il faut lire. Je passe à l'ami qui est autre. Donc il faut lui dire. Il faut avouer que je l'aime. Et c'est toujours très très délicat. Alors quelquefois, je me sers dans tous les romans, c'est un conseiller. Quelqu'un qui vient voir. Je demande, ah, tu connais bien cette personne, toi. Tu peux peut-être voir un petit peu. Alors on dit, quels sont ses sentiments vis-à-vis de moi? Oui, quels sont ses sentiments? Alors, si l'audio con, je suis tâté, mais tu es complètement indifférent. Alors à ce moment-là, on se tait. Puis on essaie de faire ce qu'on peut. Pour éveiller chez l'ami une curiosité. Comme un qui s'intéresse à moi. Puis on s'intéresse à moi peut-être après mes bras. Alors il y a la réciprocité, mais on passe à l'exécution. Il y a une phase d'exécution. Et ensuite, quand on passe à l'exécution, il y a une vie ensemble dans l'amour d'amitié. Eh bien, si vous analysez cette expérience de l'amour d'amitié, or, l'expérience de l'amour d'amitié n'est vraie que quand je sais que l'ami m'aime. Tant qu'il ne m'aime pas, je tourne autour. Je suis inquiet. Je suis fébrile. Et plus les personnes avancent en âge, plus le passage du choix intérieur à l'aveu, l'exécution, devient difficile. Quand on est jeune, ça se passe tout seul. C'est très curieux. Parce que l'intériorité est plus profonde. Et si l'intériorité est plus profonde, on comprend que c'est plus difficile de le dire. Et chez les intellectuels, quelquefois ça devient tellement profond qu'on ne sait plus le dire. Et alors on a absolument besoin d'un intermédiaire qui est là, des deux côtés, pour mettre le lien. Dans l'exécution, eh bien, si vous analysez cette expérience de l'amour d'amitié, vous retrouvez dans cet amour d'amitié tous les moments de l'analyse de l'acte moral. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est dans la mesure où je retrouve dans l'analyse de l'acte d'amitié tous les moments de l'acte moral que je vois bien comment l'expérience de l'amour d'amitié, eh bien, c'est le point de départ, le fondement et la fin. Quand je découvre un ami, je découvre un bien personnel capable de finaliser ma vie humaine, momentanément. C'est une première fin que je découvre. Et là, je vois toute la différence entre la valeur et l'amour. Vous ne dites jamais à un ami, tu es ma valeur. Non. Jamais. C'est là où vous voyez la limite de la philosophie des valeurs. Tandis qu'on dit à un ami, eh bien, tu donnes à ma vie tout son sens. C'est grâce à toi que je peux continuer de vivre. C'est grâce à toi que tout est vu autrement. Vous voyez, c'est une lumière qui transforme tout mon regard. Profond. Toute ma vie profonde. Et c'est là où je vois les différents moments de la liberté. Parce que c'est important. Le passage de l'amour naturel à l'intention, liberté. Le passage de l'intention au choix, liberté. Le passage du choix à l'exécution, liberté. Il y a trois moments de liberté. Et c'est là où on voit très bien que quand vous voulez étudier ce que c'est que la liberté, vous êtes obligé de revenir ces trois moments de la liberté. Et de voir, chez l'artiste, il y a une liberté d'un type tout à fait différent. La liberté de l'artiste est autre que la liberté de l'ami. Troisième expérience. La solidarité. La coopération. Dans le travail. Par un amour d'amitié. Une expérience très particulière qui se fait quand on travaille avec quelqu'un. Au début, on est l'un à côté de l'autre. Ton bureau est là, le mien est là. C'est curieux. On est l'un, puis on travaille chacun de son côté. Puis si le travail est commun, on met en commun. Petit à petit, il y a une certaine solidarité qui se fait. Une certaine expérience qui se fait. La solidarité dans le travail et la coopération dans une confiance mutuelle. À ce moment-là, on a une expérience nouvelle, la coopération dans le travail. Et cette coopération dans le travail, si je l'étudie philosophiquement, c'est le point de départ de la philosophie de la communauté. La philosophie politique. Il y a une philosophie politique. Et la philosophie politique, elle repose sur quoi? Elle repose sur une expérience. Une expérience humaine de coopération dans le travail. Quand il y a une juxtaposition, et simplement une juxtaposition, il n'y a pas d'expérience politique. Quelle est la finalité dans l'action politique? Le bien commun. Et le bien commun, c'est un bien qui est fait avec celui à qui je coopère. C'est pour ça, si je n'ai pas l'expérience de la coopération, je n'aurai jamais l'expérience du bien commun. Et je ne pourrai pas comprendre ce que c'est qu'une philosophie politique. Vous avez donc, on y reviendra, mais je le donne tout de suite maintenant. Vous avez donc ce triangle de base pour toute philosophie humaine. L'expérience du travail, l'expérience de l'amour d'amitié, l'expérience de la coopération. Le travail me permet d'élaborer petit à petit la philosophie de l'activité humaine qui transforme la matière. L'amour d'amitié me permet de faire une philosophie de l'acte moral. La responsabilité, la liberté et la coopération me permet d'élaborer la philosophie de la communauté, philosophie politique, de comprendre ce que c'est que le bien commun. Le bien commun, on le réalise à plusieurs. Bien, je dis que si là, on est en face du triangle de base de toute philosophie réaliste. Toute philosophie réaliste implique ces trois aspects auxquels je reviens tout le temps. Vous voyez, ah, j'ai fini ma philosophie éthique. Mais non. C'est toujours actuel. Parce que toute ma vie, il y a expérience du travail, expérience de l'amour d'amitié, expérience de la coopération. On a tous ces trois expériences. Un amour d'amitié plus ou moins élaboré, pourrais former quand même tout être humain une certaine expérience de l'amour d'amitié. Et alors là, c'est la base radicale et fondamentale à laquelle je reviens tout le temps. Alors vous voyez, ce qui serait très intéressant, hein, c'est de comprendre tous les problèmes que se pose notre vie humaine. Je peux les situer dans ces trois aspects. Alors ne faites pas ces trois essais, trois casiers. C'est pas une philosophie systématique que nous faisons. Nous faisons une philosophie réaliste. Donc elle se fait tout le temps. Elle s'approfondit tout le temps. Alors évidemment, il y a des choses qu'on doit savoir pour les examens, mais normalement, il n'y a pas d'examen au niveau philosophique. Il n'y a pas d'examen au niveau philosophique. Parce que, est-ce que vous êtes devenu intelligent? Vous faites de la philosophie pour devenir intelligent. C'est le but. Pas pour passer des examens. C'est tout à fait secondaire, ces examens. Vous devez en passer à le bon. Il y aura des choses que vous devez savoir. Il y aura un programme d'examen. Et vous situerez le programme d'examen, pas du tout comme ça. Mais si vous êtes intelligent, vous allez trouver dans ces trois aspects tous les problèmes qui sont des problèmes d'examen. Et pour les rendre intelligibles, vous les ramènerez toujours à ces trois expériences. Et à partir de là, aux différents principes que vous voulez. Alors, attention, hein. À partir de là, je vais pousser ma recherche dans une recherche qu'on dira une philosophie spéculative. Ici, philosophie pratique. Ici, philosophie spéculative. C'est-à-dire une recherche de la vérité pour elle-même. Ici, recherche de la vérité dans l'activité humaine. Vous n'êtes pas trop mort. Ça va. Parce que on vous gave. On vous gave de philosophie. On va faire du foie gras de lui. Alors, quelques questions. Ça, c'est particulier, hein. Y a-t-il des spécificités à l'amour d'amitié chez la femme et chez l'homme? Ah, mon expérience est unique. Je crois que l'aspect de l'individuation, de l'exercice, fait que forcément c'est différent. Nous avions fait ici, il y a 2 ans, un cours pendant toute l'année, point de vue philosophique, sur l'homme et la femme. Pour essayer de comprendre, autant que nous le pouvons, non pas au niveau psychologique, mais au niveau philosophique, ça fonde, tu vois, la psychologie ne fait que montrer certains aspects qui restent toujours dans l'exercice. C'est pour ça que du côté psychologique, quelquefois, on a tendance de majorer la différence. Alors que quand on écoute attentivement, et je dirais, le prêtre a quand même cette expérience, plus que le philosophe, de voir que les problèmes sont très analogues dans l'ordre de l'amour d'amitié. Je ne dirais pas du tout qu'il y a une amitié différente, je ne crois pas. Je crois que c'est dans l'exercice c'est différent, dans la manière, mais profondément, il n'y a qu'une seule morale, au point de vue philosophique. Si l'amour d'amitié, dans sa nature propre, est l'expérience, le fondement et la fin de ce premier moment de la philosophie éthique, j'ai dit bien le premier moment, ce que j'appellerais l'éthique fondamentalement humaine. Le second moment, c'est l'éthique religieuse. Et le troisième moment, c'est l'éthique chrétienne. De plus en plus, je suis convaincu qu'on doit faire ces distinctions. Et qu'on les fait pas habituellement. Et que c'est très important au point de vue philosophique. Alors, comprenez bien, l'expérience de l'amour d'amitié, dans son caractère spécifique, que je dirais, qui est le même amour de l'homme à l'égard de la femme, de l'homme à l'égard d'amis, de femme à l'égard d'amis. Comme dirait Marthe, d'amis tout court ou d'amis eux. Ce que disait toujours Marthe quand on lui parlait ça. Je me souviens d'une petite étudiante comme ça, qui m'avait demandé de vouloir voir Marthe, et puis elle était venue suivre la retraite, et puis quand elle a dû venir, quand on l'appelait, elle avait tellement la frousse qu'elle est venue me chercher. Là, on est partis ensemble, et alors elle parlait de ses amis. Marthe disait toujours, amis, eux, ou amis tout court. Marthe voulait le préciser. Bien, je crois que la nature de l'amour d'amitié est spécifiquement le même, mais dans l'exercice, c'est sûr. Est-ce que c'est plus long de considérer entre des jeunes filles qui se disent amies, ou entre eux, des garçons qui se disent amis. Je sais pas. Je crois pas. Est-ce que le soupçon est plus grand chez les femmes que chez les hommes? Est-ce que la jalousie est plus grande chez les femmes que chez les hommes? Je n'oserais pas mettre ma main au feu. Aucune originalité du côté des péchés. Aucune. L'originalité est beaucoup plus dans l'ordre de l'amour. Alors là, mais c'est pas une originalité spécifique. C'est une originalité du côté de la manière d'aimer. Alors, je veux dire, comprenez bien, ces trois degrés, ces trois niveaux, l'éthique fondamentalement humaine, elle est fondée sur l'amour d'amitié. Jusqu'à nouvel ordre. Chaque fois que je demande ça et qu'on me pose une objection, c'est facile de montrer que ça ne tient pas. Alors pensez-y. J'aimerais beaucoup que quelqu'un me dise « Non, c'est pas ça, c'est ça. » L'autre jour, je l'ai dit devant quelqu'un, je ne vais pas dire c'est qui, parce que c'est quelqu'un d'extrinsèque ici. Il m'a dit « Mais permets, non. Ah, le fondement de la morale, c'est la nature humaine. » Vous voyez ça? C'est très vieux qu'on dit ça. Mais c'est justement pas la nature humaine, je regrette. La nature humaine n'est pas fondement. Elle est fondement ultime de sagesse. Mais pas fondement immédiat. La nature humaine, c'est pas concret. Or, on est en philosophie pratique. Et donc, le fondement ne peut pas être quelque chose qui est abstrait. Je sais qu'on a dit ça, je ne sais combien de temps. Tous les gens bien disent ça. La morale se fonde sur la nature. Et le péché, c'est contre nature. Très délicat de dire ça. Parce que les études historiques montrent que la nature est vécue très différemment. Très différemment. Alors il faut préciser que la nature humaine soit le fondement ultime dans une vision de sagesse, d'accord, mais pas le fondement prochain. Parce que le fondement prochain doit être pratique. Je suis en philosophie pratique. Donc, peut-il y avoir un amour d'amitié intéressé? Oui, oui, oui. Oh, je comprends. Intéressé, c'est-à-dire utile. C'est quand on se prépare à un examen, tu es fort en thème, moi je suis fort en version. Je suis très fort en histoire, toi tu es très fort en mathématiques. On va s'entendre, puisque de fait, on sait comment ça va se ranger. On a le même nom. Il n'y a qu'une différence de prénom. Donc on sera l'un à côté de l'autre. Alors, soyons amis. Et on se passera des petits mots doux. Oui, l'amitié intéressée. Et elle doit être intéressée des deux côtés. Alors elle est loyale. Tu es voleur. Moi je suis voleur. On se partagera le butin. On sera amis. Justement, c'est un caractère très particulier. Ce n'est pas une véritable amitié. C'est une amitié imparfaite, parce que quand il n'y aura plus rien à voler, on ne sera plus amis. On est amis dans le vol. On est amis pour l'examen. Quand il n'y aura plus d'examen, Jordan Bruno, son côté. Sauf si l'un a dit juste et l'autre a dit faux, alors à ce moment-là, il y aura la petite vengeance. Alors que l'amour d'amitié vrai dure toute la vie. Si l'ami vient à perdre toute sa fortune, à être malheureux, à être malade, on voit si l'amitié est vraie. Rien n'est plus beau, faut le dire, de voir une amitié grandir quand on est en face de deux amis qui sont mariés dans leur jeunesse. Tous les deux, gays, merveilleux, plein d'entrain. Et voilà qu'un perd complètement la santé, ou devient infirme. Et de voir que l'amitié alors grandit, parce qu'elle s'intériorise, elle porte davantage sur la personne. Parce que les épreuves, les maladies, les échecs sont toujours quelque chose qui va sonder le cœur. Quelqu'un qui n'a jamais souffert, on ne sait pas très bien jusqu'où va son amitié. Quand tout réussit et quand on est dans la gloire, on a des quantités d'amis. Quand ça commence à ne plus marcher du tout, les amis diminuent. Et quand on est crucifié, il n'y en a plus qu'un. C'est un fait. Parce qu'au fond, les autres amitiés n'étaient pas assez fortes, assez viriles, assez amitiées. Parce que l'amour véritable rend fort. Un ami qu'on aime profondément, il nous fortifie dans la lutte. Et c'est très curieux que l'amour, à la fois, rend fort et rend vulnérable. Il y a les deux aspects. Ce sont deux aspects différents. Mais il rend fort et rend vulnérable. Donc, peut-on avoir un amour d'amitié intéressé ou qui essaie de se reconstruire alors que le point de départ n'était pas spirituel? Oui, ça peut se faire, ça. Vous savez, tout à l'heure, je vous citais le commencement d'un amour d'amitié avec ce coup de foudre. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Quelquefois, c'est le travail. On travaille ensemble. Puis petit à petit, parce qu'on travaille ensemble, on arrive à se connaître. Et on arrive à découvrir des qualités très profondes de l'un et de l'autre. Et un amour peut venir de là. Pas toujours, mais ça peut venir de là. L'amitié est-elle exclusive? Très bonne question. Non, l'amitié n'est pas exclusive. L'amitié passionnelle est exclusive. Alors, je continue. Parce qu'il y a des notes, après il faut qu'il y ait une inquiétude. Est-il prudent d'avoir, en plus de son... Ah, attendez, alors oui, vous distinguez. Est-il prudent d'avoir, en plus de son épouse, une amie? N'est-ce pas dangereux? Oui, il ne faut pas le harem. Et je suis contre, philosophiquement parlant, pas au point de vue de ma foi. Philosophiquement parlant, c'est une erreur. Il faut appeler les erreurs par leur nom. Ça prouve, vous voyez, qu'on n'a pas basé l'amour d'amitié sur le sommet, l'amour spirituel. L'amour spirituel fait que, de fait, dans le mariage, en dehors du mariage, un amour spirituel n'est pas exclusif. Et on voit ça constamment. Vous savez, ce fait, là, un exemple très simple. Quand on enseigne à des jeunes ce que je faisais à Fribourg, et qu'on essaie progressivement d'avoir une véritable amitié avec ses étudiants. C'est, je crois, la seule manière de véritablement enseigner la philosophie. Socrate dit à quelqu'un qui vient l'interroger, « Es-tu mon ami ?»« Si tu es mon ami, je peux parler. » La philosophie, pas les mathématiques c'est différent. Mais la philosophie implique que, en enseignant la philosophie, on touche des choses si profondes de l'esprit, de l'intelligence et du cœur, qu'il est très difficile de pouvoir enseigner la philosophie jusqu'au bout, et puis avec un réalisme constant, si dans son auditoire, on sait qu'il y a tel, tel qui vous hait, qui a de la haine, ou qui est là tout le temps à vous épier. Il suffit d'un seul, dans un cours, j'ai longue expérience, hein. Il suffit d'un seul dans un cours pour empêcher le professeur, si le professeur est un peu sensible, c'est-à-dire s'il sent son auditoire, c'est capital de sentir son auditoire. Quand on ne sent pas son auditoire, vous savez ce qu'on fait? On prend des feuilles, on a donné ce cours il y a 10 ans, et on continue de lire, et on est tranquille, on a tous les cours pour 3 ans. On n'a plus qu'à se tourner les pouces, ça y est. Et ça, c'est pas enseigné, c'est répété. Parce que l'auditoire a changé depuis 10 ans. C'est plus le même du tout. Alors on ne fait plus attention aux étudiants. On manque de sensibilité par rapport à l'auditoire. Mais si on est un peu sensible à l'auditoire, il suffit d'un ou deux. Un seul, on arrive à le neutraliser. Mais quand ils sont plusieurs, ils empêchent. Oui, on dira, on fera son cours. Mais on ne pourra pas aller jusqu'au bout. C'est très très curieux, ça. Je dis bien enseigner la philosophie. Ou enseigner la théologie mystique. C'est la même chose. Et je crois que pour l'art, c'est un peu la même chose. Quand tu es en face de quelqu'un qui est en opposition systématique, il tarit l'inspiration. Facile de tarir l'inspiration de quelqu'un. Il suffit d'être en 7 contre 1 systématiquement. Tout ce que tu diras, je le contrerai. Alors, petit à petit, vous minez quelqu'un. Vous empêchez cette personne de s'épanouir. On a tous besoin de confiance pour épanouir son intelligence et surtout son cœur. Et l'artiste lui-même a besoin de confiance, peut-être encore plus qu'un autre, parce qu'il est sensible. Alors voyez bien, je suis d'accord, hein, que lorsqu'il s'agit du mariage, alors ça dépend des cas, hein. Ne mettons pas de loi là-dedans. Ça dépend des cas. Ça dépend des personnes. Ça dépend du degré de vertu des personnes. Ça dépend de la confiance qui existe entre l'époux et l'épouse. Quand il y a une totale confiance entre l'époux et l'épouse, l'époux dira, tu as vu cette personne, elle est bien sympathique. Il dira tout de suite, l'époux dira, mais oui, très sympathique. C'est bon, on pourrait en faire une amie. Et nous dire oui, alors ça tient l'ami des deux. Alors à ce moment-là, si au contraire il n'y a pas beaucoup d'intimité entre l'époux et l'épouse, c'est un moment glissant. 10 ans après le mariage, ou 7 ans maintenant. Avant c'était 10 ans, maintenant c'est 7 ans, parce que ça va plus vite. 7 ans après le mariage, on glisse, les pneus s'usent. Alors on dérape plus facilement, beaucoup plus. C'est très mauvais 7 ans après. Quelquefois même 6 ans. Alors à ce moment-là, l'époux rencontre quelqu'un de charmant. Les yeux d'honneur, si je l'avais vu avant. Vous comprenez, il y a déjà donc, de son côté, quelque chose qui n'est pas net. Il n'en peut rien. Elle est charmante. Et elle joue un peu du charme. Alors, ça devient dangereux. C'est sûr. Et l'épouse le sentira tout de suite. Si elle est assez fine. Elle saura tout de suite qu'il y a quelqu'un qui a pénétré dans le cœur de son mari. Pas tout de suite. Quand Socrate disait qu'il avait reçu des dieux un don pour connaître les amoureux, je dirais, c'est pas la peine. Quand on est habitué de faire un cours à des étudiants et des étudiantes, on voit tout de suite ceux qui tombent amoureux. Immédiatement. Et je ne dis pas que c'est un don des dieux, c'est tout simplement sentir son auditoire. Il n'est plus très présent. Il y a un petit quelque chose, vous voyez, qu'on sent bien. Puis alors, on fait attention. Puis au bout d'un certain temps, on voit qu'il amène une jeune fille à côté de lui. En disant, ça y est, c'est bien ça, j'avais senti le coup. Alors on continue sans rien dire. On attend le moment où je viens vous dire, si on le connaît bien, je viens vous dire, vous avez remarqué, qu'est-ce que vous dites? Existe-t-il entre Marie et Joseph un amour d'amitié véritable? Oui. Saint Thomas ose dire, en théologien, le plus sûr de l'Église, entre Marie et Joseph, il y a la plus grande amitié qui ait existé entre deux époux. Maxime amicitia. Maxime. Ce qui montre bien que l'amour d'amitié est premièrement ce choix d'amour spirituel, d'amour sensible et au-delà de l'union conjugale. L'union conjugale ne spécifie pas l'amour d'amitié. Le jour où l'union conjugale spécifie l'amour d'amitié, c'est très grave. Ça ne durera pas. Parce que nos sensibilités varient. C'est l'amour spirituel qui seul fait le lien profond. Et ça, je crois que c'est très important. Là aussi, je pourrais vous donner un petit exemple qui m'a beaucoup frappé. C'était peu de temps après la guerre, j'étais à Fribourg, parce que je suis arrivé à Fribourg en 45. Il y avait quelqu'un, un garçon étonnant, qui dans le maquis avait été un héros. On lui avait mis des galons du maquis. On l'avait nommé général du maquis. Il était le frère de quelqu'un que je connaissais très bien, qui était une Française qui habitait Fribourg, qui avait épousé un Suisse. Alors, il venait de temps en temps se refaire en Suisse. Mais après la guerre, ce héros n'avait plus rien à faire. Alors qu'est-ce qu'il était devenu? Un don juan. Il avait tout pour ça. Mais partout où il passait, il restait des plumes. Et des peurs. Et des grincements, des pleurs et des grincements des dents. Partout où il passait. Alors sa sœur est venue me trouver. Elle dit, père, il n'y a que vous qui avez de l'influence sur lui. Il faut à tout prix que vous essayiez. Moi, je ne savais pas tout ça. Je ne m'en occupais pas. Il ne m'en parlait pas non plus. Mais par sa sœur, j'ai tout su. D'ailleurs, vous pouvez dire que c'est moi. Mais c'est vous qui devez parler. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains. Il était plus jeune que moi, donc c'était plus facile. Pas beaucoup. Puis je me suis dit, à lui dire qu'il se conduisait vraiment d'une manière tout à fait indigne d'un homme, que c'était facile de faire ce qu'il faisait. avec l'auréole qu'il avait du maquis. C'était facile. Alors, première réaction. Ben, vous n'y connaissez rien. Je dis oui, dans ce domaine-là, je veux bien, mais je connais beaucoup mieux ce que vous, ce que c'est que l'amour. Vous, la manière dont vous conduisez, ça prouve que vous n'y connaissez rien. Et alors, sur son propre terrain, je lui ai montré qu'il ne connaissait rien, qu'il patinait. C'était Aphrodite, en grec. Celui qui joue avec l'amour. Elle dit, on ne joue pas avec l'amour. Et c'est très grave. Parce que ça retombera sur vous. Puis, je vais montrer que l'expérience de l'amour qu'on peut avoir au plan surnaturel vous donne une expérience de l'amour bien plus grande que l'amour humain. Parce que l'amour est analogique. C'est-à-dire qu'il a des modalités différentes. Mais c'est toujours l'amour. Et si je peux connaître un peu ce qu'est l'amour de Dieu, cet amour-là me donne une expérience de l'amour infiniment plus grande que des expériences très extérieures d'amour, qui touchent les choses très extérieures. Il a fallu un petit moment pour le convaincre. Mais au bout d'une demi-heure, il m'a dit, vous avez raison, jeune imbécile. J'ai dit, oui, vous êtes un imbécile, indigne de ce que vous êtes. Et alors, il m'a demandé conseil à ce moment-là. C'était très beau. Parce que c'était quelqu'un qui croit. La confession, c'était un peu loin dans le maquis. C'est pas ça qui brûlait son cœur. Mais il avait quelque chose, hein. Vous savez, pour faire des actes héroïques, il en avait fait beaucoup dans le maquis. Il avait payé de sa vie, quoi, plus d'une fois. C'est quelqu'un qui a quelque chose, il y a un ressort. Donc, c'est quelqu'un qui cherche à aimer. Quand on aime, on pète sa personne. C'est pour ça qu'on pouvait lui montrer que ses actes héroïques, c'était payer de sa personne. Et quand on aime, on pète sa personne. Et par le fait même, on se dépasse. L'amour est extatique. C'est-à-dire, il nous met au-delà de nous. Et tout véritable amour nous agrandit. Parce que la personne qu'on aime vraiment, pour elle-même, nous permet de sortir de nous. Et ça, c'est énorme. Parce que vous ne sortez pas de vous quand vous réfléchissez la pensée. Vous ne sortez pas de vous quand vous travaillez, c'est vous. Même là, très grand génie pour sortir d'eux-mêmes. En disant, ils sont très attachés à leur œuvre. Et donc, ils ne sortent pas d'eux-mêmes. Tandis que l'amour permet de nous dépasser et d'aimer vraiment l'autre pour lui-même. L'amour qui existe entre gens, le disciple que Jésus aimait, est-il le modèle de l'amour d'amitié ? Eh bien, vous savez bien que c'est un problème extrêmement important. L'amour de Marie à l'égard de Joseph, l'amour de Marie à l'égard de Jean, lequel est-il le plus parfait? Je crois qu'il faut distinguer. Au point de vue humain, l'amour de Marie à l'égard de Joseph est sûrement plus parfait. L'amour de Marie à l'égard de Jean est plus parfait dans l'ordre surnaturel. Parce qu'elle est mère de Jean. Mère au plan surnaturel, au plan divin. De sorte que je ne peux pas donner une réponse unique. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ?
J'ai mal formulé la question que j'ai posée. Entre Jésus et
télescopine. Ah oui, entre Jean et Jésus, pardon. Le disciple qui aimait, j'ai cru que c'était la même. Oui, c'est sûr qu'il y avait une amitié humaine. Mais elle était divine tout de suite, celle-là. Oui. Vous ne pouvez pas parler d'une amitié humaine. Jésus aimait Jean d'un amour divin qui ne supprimait pas le point de vue humain. Oui. Alors c'est tous les gestes de Christ qui dépassent tous. Alors là, c'est simple. Ce sont des gestes, comme disent les théologiens, déandriques. Donc divin et humain. Mais c'est probablement divin. C'est que j'aime mieux regarder le point de vue, le fondement humain de l'amour de Marie pour Joseph et d'amour de Marie pour Jean. Alors je continue, hein, parce qu'il faut avancer. Regardez bien ces trois expériences. L'amour d'amitié, le travail, la coopération. Ces trois expériences, celle de l'amour d'amitié et celle du travail, sont irréductibles. Et il est sûr que dans l'amour d'amitié, l'expérience interne de l'amour est beaucoup plus grande que dans le travail. Ça, c'est sûr. Le travail n'intériorise pas tellement, sauf un travail très, très artiste. Il n'intériorise pas tellement. Il intériorise, mais pas de façon absolue. De sorte que l'expérience du travail est plus réaliste que l'expérience de l'amour d'amitié. L'expérience de l'amour d'amitié est réaliste parce que c'est l'ami qu'on aime. C'est pas l'amour que j'ai pour l'ami que j'aime. C'est l'ami que j'aime. Il faut toujours bien distinguer les deux. Parce que quand votre amour d'amitié se ramène à l'amour que vous avez pour votre ami, très vite, cet amour se détériorise. Je suis persuadé que des quantités de divorces proviennent du fait que l'amour d'amitié qui a pu exister se détériorise en fonction qu'on veut aimer l'autre dans la mesure où il m'aime. C'est subtil, mais ça, il faut beaucoup y réfléchir. Dans l'amour d'amitié, vous aimez l'autre tel qu'il est. Et si vous commencez à aimer l'ami parce qu'il vous aime, dès que vous avez l'impression qu'il vous aime moins, vous l'aimez moins, et l'autre vous aime moins, et vous l'aimez moins. Et alors, c'est la cascade. Et très vite, il n'y a plus d'amour. Et voyez, au point de départ, c'est assez subtil. Et pourtant, c'est très important. C'est là la philosophie réaliste. Dans une position de l'ontologisme, on ne peut pas faire la distinction. Vous aimez l'ami pour lui-même. Alors vous avez l'impression que votre ami vous aime moins. Vous dites, il est fatigué. Et donc, je dois être encore plus prévenant. Et je dois encore l'aimer plus. Parce qu'il est fatigué. Faites juste l'inverse. Et à ce moment-là, vous ranimez la flamme. Plutôt que de dégringoler avec lui. Quand on est deux à dégringoler, on dégringole plus vite. Et on s'arrête plus difficilement. Parce qu'on est deux, on est plus lourd. C'est vrai physiquement, et c'est vrai dans l'ordre de l'amour d'amitié. On voit quelquefois ces catastrophes, mais ahurissantes, et qui ne peuvent s'expliquer que parce que justement, à un moment donné, on a décroché. On a aimé l'autre parce qu'il m'aimait. Oui, un petit examen de conscience, là, philosophique, par rapport aux amitiés. supériorité dans l'expérience de l'amour d'amitié est très forte, mais il faut la dépasser pour atteindre vraiment l'ami. L'ami, c'est l'autre. Tandis que l'amour que l'ami a pour vous, c'est encore quelque chose de vous. Puisque c'est vous qui avez suscité cet amour. Tandis que l'ami que j'aime tel qu'il est, c'est l'autre. Ça peut paraître un peu subtil au début, parce qu'on n'y a jamais pensé. Et c'est justement là le dommage. Vous voyez, dans l'ordre de l'amour d'amitié, chacun d'entre nous, nous devons avoir notre propre éducation. On doit s'auto-éduquer dans l'amour d'amitié. Parce que ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va nous éduquer. Et donc, on doit être d'une lucidité toujours plus grande. Or, on ne nous a jamais appris, il faut bien se le dire, comment aimer quelqu'un. Il y a des livres avec des formules de politesse. Mais c'est pas ça qui fait aimer. Ça ne fait pas du tout aimer. Et donc, il faudrait, dans l'éducation, aujourd'hui, si on a une morale de l'amour d'amitié, montrer que l'amour d'amitié implique une auto-éducation. Et alors, à partir de là, on comprend que pour aimer vraiment l'autre, il faut se maîtriser. Et pour se maîtriser, il faut acquérir des choses qu'on n'aime pas beaucoup ordinairement, des vertus. Quand il n'y a pas de vertu et qu'il y a des passions déchaînées, ça détruit l'amour d'amitié. Parce qu'on dit des paroles inconsidérées. Des paroles passionnées qui tombent toujours mal au mauvais moment. Et alors c'est très difficile, après avoir blessé quelqu'un au plus intime de son cœur. Vous savez, il y a des meurtres visibles et il y a des meurtres invisibles. Et tuer quelqu'un dans son amour, c'est plus grave presque, comprenez bien, que de le tuer dans sa vie biologique. Dès qu'il y a des relations d'amitié ou de charité surnaturelle, on est responsable les uns des autres. Et tuer quelqu'un parce qu'on n'a pas confiance en lui et qu'on le propage, c'est dangereux, c'est terrible. Alors, maintenant, nous allons passer, si vous avez encore un peu de force, vous donner des cauchemars. On va passer de la philosophie pratique à la philosophie spéculative. Alors ça, c'est capital, ça. Mais c'est pas commode. C'est pas commode. Pourquoi ? Parce que le contexte dans lequel nous philosophons aujourd'hui est un contexte qui ne fait plus la distinction. La pensée dialectique de Hegel ne fait plus de distinction. Les sciences mathématiques ne font pas la vraie distinction. Et les sciences actuelles non plus. En psychologie non plus. Parce que pour comprendre la distinction entre les deux, il faut regarder le point de vue de la finalité. La philosophie spéculative, dite spéculative, elle est finalisée par la recherche de la vérité. La philosophie pratique, elle est finalisée par l'œuvre. Elle est finalisée par l'amour d'amitié. L'ami, c'est l'ami qui finalise. Elle est finalisée par le bien commun. Et la connaissance est vraie en pratique, dans la mesure où l'œuvre est vraie, dans la mesure où l'ami que j'atteins dans mon amour d'amitié est vraiment mon ami. Et le bien commun. Voyez, le problème de la vérité n'est pas explicité pour lui-même en philosophie pratique. Tandis qu'il est expliqué, il est explicité pour lui-même en philosophie spéculative. Alors, vous allez me dire, comment j'arrive à cette distinction ? Aristote, que je cite, non pas pour m'appuyer de lui, donner un exemple, montre que la connaissance spéculative repose tout simplement sur cette expérience. J'ai du plaisir à voir, j'ai du plaisir à toucher, j'ai du plaisir à connaître. Il y a une joie de connaître quelque chose de nouveau. Il y a une joie de voir un beau coucher de soleil. Il y a une joie à goûter quelque chose de bon, un bon vin. Être gourmet, c'est pas être gourmand, c'est être qualitatif. Faut pas insister trop, mais on peut le dire, en philosophe, on peut le dire. Alors voyez, s'il y a une joie de connaître, ça prouve que la connaissance a en elle-même sa propre finalité. Du reste, les vrais mathématiciens comprennent ça tout de suite. Les vrais mathématiciens aiment de spéculer pour spéculer, de découvrir quelque chose de nouveau. Et ils sont joyeux de découvrir ça. Les vrais mathématiciens. Et dans toute la science, il y a toujours un moment spéculatif. Dans toutes les sciences. Sciences physiques, sciences biologiques. On est heureux de découvrir un problème qu'on s'était posé. Mais ce n'est pas cela qu'on recherche en dernier lieu. Tandis qu'en philosophie spéculative, c'est vraiment la vérité qu'on recherche en dernier lieu. Donc là, question de réflexion sur la finalité d'intelligence. L'intelligence a diverses finalités. Une finalité pratique. L'œuvre que je fais, une finalité pratique, l'amour que je donne à mon ami, une finalité pratique, le bien commun. Mais ce sont des finalités toujours mélangées. Tandis que l'intelligence a une finalité qui lui est propre. La découverte de la vérité. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que la vérité ? Dans un monde sceptique comme le nôtre, qu'est-ce que c'est que la vérité ? On y reviendra. J'ai simplement cet exemple courant. L'intelligence cherche la vérité. Alors, comment on va voir apparaître cette philosophie spéculative ? Et les différents moments de cette philosophie spéculative. Oui, parce que... Merci beaucoup. On a vu en philosophie de l'art, de l'activité artistique, qu'on travaille, qu'on transforme la matière. L'artiste comme tel, le travailleur comme tel, présuppose la matière. Qu'est-ce qui va connaître cette matière ? Qu'est-ce que c'est que la matière ? Je veux la connaître. Pour elle-même. Je peux très bien connaître la matière uniquement en vue de la transformer. C'est comme ça que les marxistes définissent la matière, ce qui est capable de transformer. Mais nous ne disons pas ça, sans qu'il y ait une réalité dans la matière. on est plus matérialiste que les marxistes. Parce qu'on respecte la matière, alors qu'on ne la respecte pas. C'est ce qui explique qu'il peut arriver des... Parce qu'au fond, il reste idéologiste. Et donc, idéaliste. Qu'est-ce que c'est que la matière? Dans la philosophie éthique, je regarde l'ami. Mais l'ami, il peut mourir. Il y a la mort de l'ami. L'ami est un vivant. J'aime ce vivant, mais il peut mourir. Et je sens bien que si mon amour était plus fort, il ne mourrait pas. Et je voudrais bien ça. Et mon amour ne peut pas le préserver de la mort. Donc, il y a quelque chose dans l'ordre de l'amitié que je n'atteins pas. Qu'est-ce que c'est que le vivant? Et, en troisième lieu, nous arrivons à découvrir ce qu'est la philosophie première, ce qu'on appelle la métaphysique. Voilà ce qu'il nous reste à voir demain. La naissance de la philosophie de la matière, dite de la nature. La naissance de la philosophie du vivant. La naissance de la philosophie première, la métaphysique. Vous voyez à quoi rêver, hein?